Bienvenue à tous sur France Culture, il est midi et demi. Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Preuve que le conflit meurtrier qui ravage la Syrie depuis 9 ans est déclenché à l'origine par la répression de manifestations pro-démocratie pacifique. C'est aujourd'hui complexifié au point de devenir un terrain de guerre régional. Des combats entre armées syriennes d'un côté et soldats turcs de l'autre ont fait au moins 6 morts et une trentaine de blessés ce matin.
Dans votre journal également, les principales bourses européennes tentent de rebondir malgré la débâcle des marchés chinois.
Oui, ceux-ci prennent de plein fouet l'impact de l'épidémie de coronavirus qui menace d'amplifier le ralentissement de l'économie chinoise et d'avoir à terme des conséquences sur la croissance mondiale.
L'Union européenne et le Royaume-Uni se lancent aujourd'hui dans la bataille de l'après-Brexit en affichant des lignes rouges, celles de leur futur. Relation, Thomas.
On savait que les négociations s'annonçaient ardues. Confirmation donc ce matin après que chacun des deux camps a affiché des positions extrêmement fermes, sinon inflexibles. En France, les députés démarrent aujourd'hui le match des retraites. L'examen de la vaste réforme article par article débute cet après-midi en commission à l'Assemblée sous une rafale d'amendements des oppositions. 22 000 au total, un record sous cette législature. Enfin, l'occasion de l'entrée en vigueur aujourd'hui des critères retenus pour équilibrer l'expression politique dans la perspective des municipales. Invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Michel Léridon, membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et puis à 12h55, Olivia sera à la grande table des idées.
Le coronavirus fait biologique, mais aussi fait social. On en parlera avec notre invité, l'anthropologue et philosophe Frédéric Keck. Qu'est-ce que la Chine a appris de ses précédentes épidémies? La peur est-elle contagieuse? Rendez-vous dans une vingtaine de minutes.
Merci et à tout à l'heure. Dans le jargon cynique qui accompagne depuis des années la guerre syrienne, la région d'Idleb est toujours officiellement qualifiée de zone de désescalade. Sauf qu'en dépit d'un prétendu cessez-le-feu annoncé le mois dernier, la situation donne tous les signes de vouloir encore s'aggraver, au point que le pire est toujours à redouter à mesure que s'approche la future escalade. Parce que le pouvoir de Damas n'a jamais fait mystère de sa volonté de reconquérir militairement la province où sont désormais regroupés 3 millions de Syriens et où se concentrent quelques 30 000 combattants appartenant à divers groupes djihadistes ainsi qu'à ce qui reste de l'armée syrienne libre. Voilà plusieurs semaines que les forces du régime de Bachar el-Assad, appuyées par Moscou, ont intensifié leur offensive, multipliant les bombardements meurtriers. Ce matin encore, au moins 9 civils, dont 4 enfants, ont été tués dans des raids sur le nord-ouest de la Syrie. Et puis, derrière cette volonté de reconquête d'Idleb, se cache aussi une sorte de guerre indirecte, cette fois-ci entre Damas et Moscou d'un côté, et Ankara de l'autre, qui appuie les groupes rebelles syriens. C'est ainsi que l'on a appris ce matin que dans le dernier bastion des forces hostiles au régime de Damas, l'artillerie et l'aviation turque ont bombardé des positions loyalistes, tuant au moins 6 soldats en riposte à des tirs qui avaient fait 4 morts côté turc. Les précisions à Istanbul de Anne Handlauer.
C'est le scénario contre lequel beaucoup mettaient en garde depuis des mois, celui d'une confrontation entre les soldats turcs déployés à Idleb et les forces du régime de Bachar el-Assad, lancées depuis avril 2019 dans une vaste offensive pour reconquérir cette province. Selon le ministère turc de la Défense, ces soldats ont été la cible de tirs d'artillerie des forces du régime syrien, alors même que leur position avait été communiquée en amont. Le ministère précise que ces troupes avaient été envoyées en renfort. Depuis un accord russo-turc de septembre 2018, l'armée turque est en effet présente à Idleb sur 12 postes dits d'observation. Or, ces 6 derniers mois, 3 de ces postes se sont retrouvés dans des zones reprises par l'armée syrienne ou encerclées par cette dernière. Malgré les pressions de Moscou, Ankara refuse d'évacuer ces postes. La semaine dernière, le président Recep Tayyip Erdogan avait accusé la Russie de ne pas respecter les accords de désescalade concernant Idleb et avait menacé d'y lancer une opération militaire si les bombardements russo-syriens se poursuivaient. Entre Ankara et Damas, le risque d'escalade est réel. La Turquie a annoncé avoir répliqué immédiatement aux tirs visant ses troupes. Soucieux de maintenir le dialogue avec Moscou, le président turc Recep Tayyip Erdogan a tenu à préciser que les opérations en cours ne visaient pas la Russie, mais le régime syrien qu'il a appelé, je cite, « à ne pas se mettre en travers de notre route ». Le porte-parole du parti au pouvoir Ömer Çelik est allé plus loin, affirmant qu'Ankara considérait le régime de Damas comme une cible dans la région et prévenant de l'arrivée prochaine de nouveaux renforts turcs.
Tout le week-end, des milliers de bénévoles auront frappé aux portes, téléphoné, planté des pancartes sous une douceur inhabituelle pour ce début de mois de février, même si celle-ci n'aura pas réussi à faire fondre totalement la neige des plaines de l'Iowa qui, depuis près de 50 ans à cette époque, ouvre donc traditionnellement le bal des primaires aux États-Unis. Et parce que la semaine dernière encore, près de la moitié des électeurs démocrates se disaient indécis, Les dernières heures de campagne n'auront sans doute pas été de trop pour tenter de convaincre ceux qui doutent encore. Il faut dire que l'enjeu est de taille car dans cet État essentiellement rural et peu peuplé, l'histoire aura souvent démontré combien l'élan créé par une surprise peut généralement rapporter gros quand l'essentiel pourrait se résumer ainsi. Faire mieux qu'attendu, sachant que pour chacun des 11 candidats en lice, l'objectif reste évidemment le même pour tous, priver Donald Trump d'un second mandat. Quoi qu'il en soit, et après plusieurs mois d'une campagne intense, pas moins de 7 débats télévisés et des abandons en cascade, voilà donc venu le temps pour les électeurs démocrates de s'exprimer pour choisir celui ou celle qui affrontera l'actuel locataire de la Maison Blanche en novembre prochain. Parmi les mieux placés dans les sondages figure le sénateur socialiste Bernie Sanders, la sénatrice progressiste Elizabeth Warren, sans oublier l'ancien vice-président Joe Biden. Alors parce qu'il apparaît comme le plus modéré d'entre eux, l'ex-vice-président d'Obama semble a priori le mieux placé à l'échelle nationale. En revanche, son recul ces derniers jours dans les sondages locaux a poussé ses soutiens à sillonner cet état rural du Midwest, donc jusqu'au dernier moment, comme en témoigne le reportage de notre envoyé spécial à Des Moines, Grégory Phillips.
Ils sont une petite dizaine autour de la table, avec au centre une carte de l'Iowa et des listes de sympathisants démocrates qu'il faut encore démarcher pour les inciter à aller voter ce soir dans l'un des 1700 caucus organisés à travers tout l'État. Dans le petit groupe, tous sont connus, Joe Biden, alors qu'il était sénateur du Delaware. Nous avons travaillé à ses côtés pendant plusieurs décennies, raconte Paul. On l'a vu agir, on sait qu'il peut rassembler les gens. Or, ce pays n'a jamais été aussi divisé. Nous avons besoin de quelqu'un qui a des principes, qui peut réunir les Américains. Et pour cela, Joe Biden est le meilleur. Quelques heures plus tard, dans un gymnase de la banlieue de Des Moines, voici l'ancien vice-président d'Obama, Joe Biden, 77 ans. Qui, dit-il, est le mieux placé pour battre Donald Trump le 3 novembre. Il saura aussi renouer les liens entre les États-Unis et le reste du monde, promet l'ancien secrétaire d'État d'Obama, John Kerry, qui fait campagne à ses côtés.
Parce qu'il a l'expérience. Il connaît beaucoup de présidents et de ministres étrangers. Et ils sachent très bien ce qu'on doit faire maintenant pour le monde.
Dans l'Iowa, Biden ne part pas favori, mais il reste en tête des sondages nationaux.
Voilà, reportage à Des Moines, signé Grégory Phillips. Alors côté républicain, cette fois-ci, Donald Trump fait lui cavalier seul. Et c'est d'ailleurs parce qu'il est aujourd'hui considéré comme archi-favori que certains États ont même d'ores et déjà annulé les primaires républicaines. Sans compter que si ses adversaires comptaient éventuellement sur son procès en destitution pour voir le vent tourner, le verdict ne fait désormais plus l'ombre d'un doute depuis que le Sénat, à majorité républicaine, a refusé, c'était vendredi dernier, de procéder à l'audition de nouveaux témoins. L'acquittement du président américain devrait être officiellement prononcé mercredi. Les autorités sanitaires de Californie ont signalé hier 3 nouveaux cas de contamination au coronavirus, portant à 11 le total de cas confirmés aux États-Unis. La Maison-Blanche a d'ailleurs décrété l'état d'urgence sanitaire et interdit l'entrée sur le territoire américain aux ressortissants étrangers s'étant récemment rendu en Chine, ce qui n'a pas manqué de susciter le courroux de Pékin ce matin qui accuse Washington de créer et de semer la panique. Reste toutefois la réalité effrayante donc des chiffres. Pour la seule journée d'hier, les autorités chinoises ont annoncé la mort de 57 personnes, portant à 361 le nombre de morts victimes de l'épidémie en Chine continentale. C'est plus désormais que l'épidémie de SARS dans le pays en 2003. Enfin, avec la victime décédée ce week-end aux Philippines, le premier cas mortel reconnu hors de Chine, ce sont en réalité 362 personnes au total qui ont succombé au virus. Enfin, preuve que la panique est sans doute aujourd'hui le sentiment le mieux partagé face à cette épidémie, les bourses chinoises ont été à leur tour rattrapées ce matin par l'inquiétude qui depuis 10 jours a déjà fait dévisser les autres places mondiales au point que la bourse de Shanghai a clôturé sur un plongeon de 7,72%, sa pire baisse en presque 5 ans. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
Alors, il se trouve que la veille, les autorités chinoises avaient pourtant pris les devants pour tenter de rassurer les investisseurs en annonçant l'injection de quelques 156 milliards d'euros dans le système bancaire afin de soutenir donc l'économie. Manifestement en vain, pour quelle raison, Marie ?
Bien, en fait, ce ne sont pas les mêmes circuits financiers. Injecter des milliards de yuan dans le système bancaire, cela permet d'éviter une crise de liquidité, c'est-à-dire le cas où les banques ne pourraient plus financer l'économie via le crédit parce qu'elles craindraient de ne pas avoir assez de yuan à disposition. Cette mesure-là, l'injection de liquidité, elle a pour but de rassurer les banques pour que l'économie réelle, celle des entreprises qui empruntent aux banques, reste à l'abri du début de panique que l'on constate sur les marchés financiers. Mais cela n'a pas d'effet direct et immédiat sur dans les bourses chinoises. L'effet recherché par cette politique d'injection de liquidités, c'est de rassurer les acteurs des marchés financiers pour qu'ils aient confiance dans la capacité de l'économie chinoise à limiter les revers et donc qu'ils cessent de vendre leurs actions, car ce sont ces ventes qui contribuent à faire chuter la bourse. L'effet recherché, il est donc bien psychologique et plutôt à moyen terme, mais il n'est pas immédiat. En fait, le pouvoir chinois a un levier bien plus puissant pour agir directement sur les bourses par le biais de ses investisseurs institutionnels étatiques. Ces investisseurs sont en train d'acheter des actions pour limiter la baisse des cours et c'est ce qui rend d'ailleurs la chute des bourses chinoises spectaculaire, car cette baisse de 7% à Shanghai et 8% à Shenzhen a lieu en dépit de cette intervention publique et directe. C'est en tout cas un des leviers forts dont disposent les autorités chinoises pour éviter que grands ou petits porteurs ne perdent trop de capital en bourse. Et au-delà de l'enjeu économique, il y a aussi un enjeu politique pour Pékin, car si trop de Chinois perdent de l'argent dans cette affaire, les critiques sur la gestion de la crise sanitaire seront démultipliées.
Merci Marie Viennot. Si l'on en croit les extraits ayant fuité hier dans la presse britannique, les prochains mois s'annoncent explosifs entre Londres et Bruxelles. Aujourd'hui, le Premier ministre Boris Johnson est appelé à prononcer son premier discours post-Brexit, dans lequel il devrait notamment fixer le cadre des négociations à venir sur l'accord commercial avec l'Union européenne, étant entendu qu'après 47 ans d'un mariage sans amour, les deux parties se sont données jusqu'à la fin de l'année pour trouver un terrain d'entente. Or, non seulement ce délai semble extrêmement court pour ficeler un accord d'une telle ampleur, qui plus est dans un contexte d'extrême méfiance, mais pire encore, on se demande bien à quoi il pourrait servir dès lors que Boris Johnson a d'ores et déjà exclu d'accepter un quelconque alignement de son pays sur les règles européennes en matière de concurrence, de dépenses sociales ou de politique environnementale. Ce qu'a déploré ce matin Michel Barnier lors de la présentation du projet de mandat de négociation aux 27 États membres, le négociateur en chef du Brexit, pour l'UE, dit ne pas vouloir faire de procès d'intention à Boris Johnson, mais reste ferme.
Je n'imagine pas franchement que le Royaume-Uni et nous-mêmes, nous n'appliquions pas ce qui a été écrit ensemble. Nous avons besoin de confiance mutuelle. Et d'ailleurs, je le dis en passant, la bonne mise en œuvre de cet accord de retrait sera aussi un signal de confiance mutuelle pour bâtir le reste. Mais je ne fais pas de procès d'intention. Je dis simplement que M. Johnson fixe un temps très court. Lui-même, c'est son choix, c'est pas le nôtre. On pourrait imaginer une prolongation de la transition, mais si je le comprends bien, il n'en veut pas. C'est lui qui fixe le moment où le Royaume-Uni va sortir du marché unique et de l'union douanière. C'est lui. Donc dans ce temps très court, nous devons progresser. Nous devons avancer, nous devons réussir. Et je recommande vivement pour réussir qu'on ne commence pas par marcher à reculons.
Alors avec le départ du Royaume-Uni, justement, la Pologne renforce aujourd'hui son poids dans l'Union européenne en devenant le 5e pays par la population et le 6e par le PIB. C'est ainsi par exemple que dès la semaine dernière, l'Élysée avait martelé que sur aucun grand sujet européen, on ne pouvait avancer sans la Pologne. Une opération séduction, certains diront, de déminage destiné en réalité à anticiper la première visite aujourd'hui d'Emmanuel Macron à Varsovie. Il faut dire que depuis son élection, le chef de l'État n'aura jamais mâché ses mots à l'égard du régime conservateur et nationaliste polonais. C'est ainsi qu'en bon adepte du pragmatisme en matière de politique étrangère, Emmanuel Macron devra donc s'efforcer de renouer le dialogue avec l'un de ses principaux adversaires dans l'Union européenne, que ce soit sur le climat, l'état de droit ou la politique migratoire. Alors que la contestation contre la réforme des retraites marque le pas dans la rue, un nouveau front politique devrait s'ouvrir aujourd'hui avec l'examen du texte en commission spéciale à l'Assemblée nationale. Au total, 71 députés vont être chargés de déchiffrer le projet de loi avec des débats souvent techniques et qui s'annoncent surtout particulièrement âpres au vu du bras de fer que veut engager notamment la France insoumise. Le groupe de Jean-Luc Mélenchon a déposé à lui seul 19 000 des 22 000 amendements, un record sous cette législature. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors on imagine que cette avalanche donc d'amendements risque de gripper quelque peu les travaux de la commission et d'ailleurs les insoumis assument totalement, Pierre, cette forme d'obstruction.
Oui, les 17 députés de la France insoumise ne s'en cachent pas, ils ont décidé de bloquer la réforme des retraites en déposant une avalanche d'amendements, vous l'avez dit, 19 000 amendements eux seuls, sur les 22 000 déposés en commission spéciale. C'est la stratégie de l'obstruction clairement revendiquée par Jean-Luc Mélenchon. Un jeu parlementaire tout à fait légal, mais à raison de 2 minutes de temps consacré à l'analyse de chaque amendement, eh bien on se demande comment la commission spéciale tiendra le rythme de l'examen du texte et des amendements en seulement 2 semaines, comme le souligne le député LREM de l'Isère, Olivier Véran, rapporteur du volet organique de la réforme.
J'ai peur qu'on n'y arrive pas parce qu'on risque d'être, enseveli sous des interventions itératives à l'emporte-pièce d'une toute petite partie de l'opposition qui, elle, a clairement annoncé la couleur et qui a décidé de transformer l'Assemblée nationale en ZAD.
Olivier Véran, ce matin sur l'antenne de France Info, le risque est donc réel de ne pouvoir achever l'examen des 65 articles du projet de loi organique et des 5 articles du projet de loi organique avant même leur arrivée dans l'hémicycle le 17 février. Et comme si la bataille d'amendements ne suffisait pas, les groupes de gauche à l'Assemblée ont prévu de déposer une motion de censure lorsque le texte arrivera en séance. Alors face à cette guérilla parlementaire qui s'annonce, le Premier ministre l'a rappelé la semaine dernière, je n'ai pas peur du débat, je n'ai pas peur du champ de braise promis par l'opposition. Mais cette obstruction systématique pourrait contraindre le gouvernement à utiliser le 49-3 pour respecter son calendrier avec un vote du texte le 3 mars prochain. Le 49-3, c'est l'arme fatale d'un débat sans vote, une arme à double tranchant qui ne serait pas sans conséquence sur l'opinion à seulement 2 semaines du premier tour des municipales.
Merci Pierre Neveu. 10 jours après la publication de sa vidéo sur les réseaux sociaux, la jeune Mila reste au cœur du débat politique. Ses virulentes critiques sur l'islam ont été, vous le savez, massivement relayées et elles lui valent surtout aujourd'hui des menaces de mort et de viol. D'où la nécessité, bien souvent, pour les différents responsables politiques de prendre position au fil des interviews. C'est encore le cas ce week-end avec Ségolène Royal qui, sur France 3, s'est montrée particulièrement critique à l'égard de l'adolescente. Un point de vue qui témoigne en réalité depuis quelques jours d'un certain malaise à gauche de l'échiquier politique. Je vous propose d'écouter l'analyse de Bruno Cotrèche, chercheur CNRS au CEVIPOF, et qui voit au fond dans cette affaire l'illustration d'un certain nombre de tensions qui peuvent exister au sein de la gauche sur les questions de laïcité et de liberté d'expression. Il répond à Rosalie Lafarge.
Il y a à gauche, dans l'électorat, mais aussi dans les forces politiques de gauche, il y a d'abord une forte inclinaison, évidemment, pour le principe de la laïcité, qui est une matrice historique très importante de la gauche en France, et bien évidemment vis-à-vis de la liberté d'expression et surtout de la liberté d'expression, le droit à critiquer, voire se moquer, à plaisanter à propos des religions, ça c'est quelque chose qui est très important à gauche. Mais il y a aussi à gauche une très forte question qui est le principe de la tolérance culturelle. Et le principe de la tolérance culturelle conduit les hommes et les femmes politiques de gauche à ne pas vouloir mettre le moindre doigt dans l'engrenage d'une stigmatisation des religions et notamment de l'islam, que ce soit Ségolène Royal ou Olivier Faure aussi, disent qu'au fond pour eux la limite peut-être qu'ils posent, ça serait de ne pas insulter, de ne pas stigmatiser. Et alors c'est vrai qu'on voit que dès qu'on est sur cette ligne de crête, ça devient un débat très compliqué parce que est-ce qu'on peut en même temps dire que l'on a une liberté absolue de critiquer les religions dans l'espace public tout en disant que ça doit respecter un certain nombre de formes et de normes. Je parlerai peut-être pas d'une gauche qui n'est pas à l'aise, mais je parlerai d'une gauche qui a peut-être des sensibilités sur le Camilla.
Voilà, Bruno Cotrèche, chercheur CNRS au CEVIPOF, joint au téléphone par Rosalie Lafarge. Après la fraude, le blanchiment, à peine condamné, les revoilà devant la justice. Le maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, et son épouse et première adjointe Isabelle sont rejugés à partir d'aujourd'hui à Paris pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Le parquet a fait savoir qu'il ne poursuivrait pas le baron des Hauts-de-Seine pour corruption, mais cette fois-ci pour prise illégale d'intérêt. En première instance, le tribunal avait condamné Patrick Balkany à 5 ans de prison avec incarcération immédiate. Isabelle Balkany, elle s'était vu infliger 4 ans d'emprisonnement, mais sans mandat de dépôt, eu égard à sa santé fragile. Le couple avait par ailleurs écopé de 10 ans d'inéligibilité, une lourde condamnation qui venait s'ajouter aux peines de prison et d'inéligibilité déjà infligées dans le volet fraude fiscale de leur dossier. C'est un véritable casse-tête à chaque élection, la question des temps de parole. Et c'est aujourd'hui que la réglementation du Conseil supérieur de l'audiovisuel entre en vigueur, 1 mois et demi donc avant les municipales. Et pour en parler avec nous, invité aujourd'hui de la rédaction, Michel Léridon, membre du CSA et président du groupe de travail Droits et Libertés, Pluralisme et Déontologie. Bonjour madame.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Stéphane Robert. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Première question, madame Léridon, elle est à la fois simple et a priori extrêmement compliquée. Quelles sont donc ces règles de comptabilité censées permettre de respecter et d'équilibrer les temps de parole politiques?
Alors je vais bien sûr vous les expliquer, ou tâcher de vous les expliquer, juste vous dire que, puisqu'on parle beaucoup de casse-tête et je sais que c'est compliqué, rappeler que le pluralisme c'est une des missions fondamentales du CSA et que voilà, l'idée c'est pas juste d'embêter les rédactions, c'est simplement de respecter la loi et de permettre un pluralisme des opinions, des points de vue et des différentes formations politiques. Il y a quand même un grand objectif derrière. Alors après, comment ça se traduit? Alors ça se traduit par effectivement un accès équitable des différentes formations politiques à l'antenne. C'est d'ailleurs ce qu'on observe et ce qu'on contrôle tout au long de l'année, mais de façon effectivement encore un peu plus rigoureuse avant les élections. Cette équité, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas l'égalité des temps de parole pour chacune des formations, ça veut dire un accès qui soit proportionnel à leur représentativité. Et c'est vrai que là où c'est compliqué, c'est comment est-ce qu'on calcule cette représentation?
Oui, et puis ça se complique parce que c'est un scrutin local, les élections municipales. Oui. Pas toujours avec une coloration politique. Pour un grand nombre de communes, il n'y a pas de coloration politique, justement. Alors, comment on fait, précisément?
Oui, eh bien, alors, d'une part, la représentativité, effectivement, après, ça sera en fonction des listes, mais c'est un faisceau d'indices, si vous voulez, qui sont effectivement les résultats aux élections municipales précédentes. On regarde aussi les résultats aux différentes élections intermédiaires.
Présidentielles, européennes, ça compte aussi?
Oui, ça compte de façon à avoir une vision un peu globale. On sait bien que le paysage politique a quand même été pas mal modifié. Il faut en tenir compte également. Et puis, on regarde les sondages et on regarde ce qu'on appelle la dynamique de campagne. C'est-à-dire, est-ce que ce sont les têtes de liste, par exemple, animent des meetings, sont présents sur les réseaux sociaux, sont présents dans le débat électoral. Et donc, c'est tout ce faisceau d'indices qui détermine, en gros, une fourchette dans laquelle on trouve une répartition. Mais il y a quand même une grande liberté éditoriale de chaque rédaction de décider qui les invite, etc. Simplement, effectivement, ce qu'on regarde, c'est s'il n'y a pas de très gros déséquilibres, des grands absents, des déséquilibres qui relèvent presque du bon sens. Parce que je crois que ça a l'air compliqué comme ça, mais quand on se dit, bon, à peu près, quelles sont les formations politiques, qui arrivent en tête, qui arrivent en second, on le sait à peu près.
Ça vous paraissait simple, vous, à appliquer, comme ça?
Disons que après l'application, elle est souple. Je comprends que pour effectivement les rédactions, ça peut être compliqué parce que parfois, ils ont un sujet d'actualité qui les pousse à inviter telle personnalité. Après, il faut qu'ils respectent des équilibres, mais il y a un dialogue qui se poursuit avec les services du CSA et les rédactions. D'une façon générale, elles sont quand même assez rompues à l'exercice parce qu'encore une fois, ils ne se déclenchent pas seulement avant les élections. C'est tout au long de l'année.
Un scrutin municipal comme ça, on prend en compte la circonscription, c'est-à-dire la commune, on prend en compte le niveau national également. C'est ça qui complique un petit peu la donne. Et puis il y a l'évolution du paysage politique, vous en parliez il y a quelques instants, qui fait qu'on a eu l'émergence de En Marche, notamment, en 2017, qui n'existait pas en 2014 lors du dernier scrutin municipal. Il y a aujourd'hui, avec les élections européennes et avec les sondages, nous indiquent qu'il y a une véritable poussée en faveur des partis qui défendent l'écologie politique. Est-ce que finalement c'est la modification du paysage politique alliée au fait qu'on est sur un scrutin local ne complique pas de façon très pointue
Je trouve que vous venez très bien d'expliquer pourquoi il y a tout ce faisceau d'indices, justement. Parce qu'en effet, si on disait simplement, écoutez, on va regarder les résultats des élections municipales précédentes et puis ça va déterminer la représentativité, on ne serait pas en rapport avec la réalité du terrain, avec la réalité de la vie politique. Donc c'est pour ça, vous venez vraiment très bien de le décrire, qu'il y a tous ces indices qui sont, en effet, les autres scrutins qui se sont déroulés entre-temps, la vie, le dynamisme de la campagne, les sondages et tout ce que j'ai décrit.
Pourquoi est-ce qu'on a un tel degré d'exigence en France? Est-ce que ça vient du pouvoir politique? Est-ce que ça vient du public? Est-ce que vous êtes saisi, vous, de cette exigence-là de la part du public à travers toutes les saisines que vous avez au CSA? Est-ce que c'est vous qui vous imposez ces règles-là?
Alors c'est inscrit dans la loi, hein, c'est-à-dire c'est y compris dans les tout premiers articles de la loi de la liberté de communication, c'est effectivement la défense du pluralisme. Je pense que effectivement c'est lié au fait que en France on considère que chaque fréquence radio ou télévision est un bien public et que effectivement les opérateurs, qu'ils soient publics ou privés, reçoivent ce bien public gratuitement et en échange, ils doivent s'astreindre à certaines règles et notamment celles du pluralisme.
Avec la montée en puissance des réseaux sociaux, d'Internet, qui ne sont pas soumis à ces règles-là, est-ce que ça a encore un sens? Parce que là, on applique des règles, faut le dire, aux radios et aux télévisions. Les réseaux sociaux sur lesquels de plus en plus de gens se viennent s'abreuver d'informations ne sont pas soumis à ces règles-là. Est-ce que ça a un sens? Et est-ce qu'il faut envisager mettre en place des règles sur Facebook, sur Twitter, à l'avenir?
je pense vraiment que sur Internet, sur les réseaux sociaux, ça n'aurait pas de sens pour le coup. On sait très bien comment fonctionne Internet. Je ne vois même pas, même si on le voulait, comment on pourrait dire à Google, attention, vous avez donné trop de place à telle partie plutôt qu'à telle autre. Et on sait bien que chaque utilisateur a son propre accès et décide lui-même ce qu'il va voir. Donc c'est complètement différent d'une diffusion, on va dire, en linéaire, c'est-à-dire sur une radio ou sur une télévision, qui touche encore quand même des millions de personnes, parce que c'est vrai qu'on, et je suis complètement d'accord avec vous, sur et on est tous bien conscients des changements de consommation. En réalité, toutefois, on voit quand même les audiences des radios, des télévisions, des débats, et ça reste encore considérable, et c'est effectivement ça qui est sous le contrôle du CSA pour l'heure.
Merci Michel Léridon, membre, je le rappelle, donc du Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Stéphane Robert. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Lumineux au sud, maussade au nord, avec notamment de la pluie des côtes de la Manche à l'Alsace. Quant aux températures, toujours anormalement douces pour la saison, elles afficheront entre 10 et 24 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.